Nous commencerons ce journal par le témoignage d'un médecin dans l'hôpital public. Comme un millier de ses collègues, il signe ce matin une lettre menaçant de démissionner de ses fonctions administratives. Il réclame toujours davantage de moyens. Une colère sociale à laquelle s'ajoute la contestation contre la réforme des retraites. Nous nous penchons ce matin sur la caisse d'amortissement de la dette sociale, une possible manne financière. Le ministre de l'Intérieur sur un fil en ce moment. Quand des policiers se suicident sur leur lieu de travail ou meurent accidentellement. D'autres sont soupçonnés de violence envers des citoyens, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous écouterons le porte-parole de l'armée israélienne. Il est à Paris en ce moment, alors que l'Iran menace encore son pays. Et puis les enfants exposés aux écrans le matin avant l'école ont 3 fois plus de risques d'avoir des troubles du langage. Analyse de Santé publique France à suivre. C'est une lettre de démission collective qui a été envoyée par mail à la ministre de la Santé Agnès Buzyn et qui est publiée ce matin. Une lettre signée par plus d'un millier de médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service. Ils se disent prêts à arrêter leurs tâches administratives si des négociations ne sont pas engagées rapidement. Cela s'inscrit dans le conflit social à l'hôpital public où le personnel demande une hausse de budget pour plus de moyens et de meilleurs salaires, Céline Autain.
Ils mènent la bataille depuis septembre par des manifestations, des journées de grève ou des actions symboliques. Les médecins vont désormais plus loin et visent ce qu'ils appellent l'hôpital entreprise. Olivier Milleron, cardiologue et membre du collectif Interhôpitaux.
Là, c'est vraiment dire à l'administration et donc aux politiques, on joue plus le jeu, nous ne discuterons plus avec vous de l'activité qui est basée uniquement sur la volonté de faire rentrer de l'argent à l'hôpital. Basé sur ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité depuis des années, et pas un seul moment on discute de la pertinence des soins ou de la qualité des soins dispensés. Stop, nous on ne joue plus, nous on s'occupe du soin.
Compte rendu d'activité et bilan financier ne seront donc plus assurés. Les médecins sont lassés par la pénurie de moyens et révoltés contre le vote du dernier budget de la Sécurité sociale.
Ce qui a été voté, c'était 800 millions en moins, plus 200 millions, ce qu'avait annoncé Mme Buzyn. Donc on est toujours en déficit par rapport à ce qu'il faudrait pour que l'hôpital continue à tourner sans créer du déficit. Et dans ça, on ne prend pas en compte une augmentation qui nous paraît nécessaire des personnels hospitaliers. Moi, je suis dans un hôpital où, par exemple, par pénurie de manipulateurs radio, on a une IRM qui est fermée. Donc ça, c'est des machines qui valent très très cher, qui ont été achetées avec de l'argent public. Et parce qu'on ne trouve plus de personnel pour les faire tourner, une machine est fermée.
C'est l'une des conditions essentielles que posent les médecins pour la reprise de leurs activités. Une hausse des salaires pour faire face aux sous-effectifs dont souffrent les services d'hôpitaux.
De meilleurs salaires. En revanche, les enseignants, eux, les ont obtenus à la sortie d'une réunion avec leur ministère hier. Ils ont en tout cas été fixés sur le montant de l'enveloppe. Elle sera de 500 millions d'euros pour une augmentation en 2021 pour les enseignants. Cela doit servir, selon le gouvernement, à augmenter ensuite les pensions des enseignants dans le cadre de la réforme des retraites. Rien en revanche pour les futures pensions des avocats. Ils continuent de se mobiliser. Ils ont fait ajourner le procès Prénat hier à Lyon. Les cheminots par ailleurs entament leur 41e jour de grève, même si le trafic ce mardi sera plus fluide à la SNCF et à la RATP. Sur le papier toutefois, la réforme des retraites est encore loin d'être actée aujourd'hui. Avec le retrait provisoire de l'âge pivot à 64 ans, le financement du nouveau système n'est pas arrêté. Il faudra pour cela laisser passer la conférence sur le financement qui doit durer jusque fin avril. Certains estiment que le système de retraite pourrait être financé en partie par les fonds de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Elle doit fermer dans 4 ans avec une recette excédentaire. Marie Viennot nous explique pourquoi.
La CADES a été créée par les ordonnances Juppé qui ont suivi la grande mobilisation de l'hiver 95. Il y avait alors 20 milliards d'euros de dette sociale à rembourser. En théorie, la CADES, qui est un établissement public, devait disparaître en 2009. Mais à intervalles réguliers, d'autres déficits lui ont été transférés, si bien qu'au total, c'est 260 milliards d'euros que cette caisse aura remboursé quand elle disparaîtra, ce qui est prévu pour la fin 2024. Si elle disparaît, les ressources qu'elle touche seront donc libres. Or, Ces ressources ne sont pas du tout anodines. Il y en a pour 18 milliards d'euros de recettes chaque année. C'est une partie de la CSG et aussi la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Alors que deviendront ces 18 milliards si la CADES a fini de rembourser la dette qui lui a été confiée en 2024 comme prévu? C'est là qu'émergent des idées, notamment venues du PS, pour dire on peut récupérer cette manne et ainsi financer les retraites. Sauf que la CADES ne gère pas toute la dette sociale française. Elle ne gère pas les 35 milliards de dettes de l'UNEDIC, ni les 30 milliards de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ni les 30 milliards de l'hôpital. Autrement dit, oui, c'est vrai, en 2025, il y a potentiellement 18 milliards d'euros de recettes à affecter quelque part, mais faut-il les consacrer au déficit possible du régime de retraite ou faut-il les utiliser pour rembourser les autres dettes sociales qu'on n'aura pas encore remboursées? C'est la question. Mais il n'y a pas de manne financière, il y a un arbitrage à faire.
Un arbitrage qui pourrait se faire dans les mois qui viennent. Des rassemblements devant plusieurs commissariats devraient avoir lieu ce mardi. Hommage silencieux aux policiers, à 3 de policiers morts hier en tout cas. Un agent de 52 ans s'est suicidé au centre de rétention administrative de Rennes. Dans la matinée hier, une policière de 52 ans avait aussi mis fin à ses jours avec son arme de service dans les locaux de Saint-Nazaire. Et l'on a appris hier également la mort du policier fauché ce week-end par un fourgon près de Lyon. Il n'a pas survécu à ses blessures. L'occasion toujours de rappeler le difficile quotidien du métier de policier, explique Philippe Capon. Il est secrétaire général du syndicat UNSA Police.
On a des milliers de blessés chaque année en intervention, en opération. On a tendance à trop galvaniser le travail des policiers sur le maintien de l'ordre depuis maintenant des mois et des mois avec le mouvement des Gilets jaunes, à remettre en cause la police. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes dans la gestion du maintien de l'ordre. Nous, à l'UNSA Police, on dénonce aussi un certain nombre de choses qui ne se sont pas forcément faites dans les règles. Mais il faut pas oublier tous les jours ces policiers qui souffrent, qui travaillent jour et nuit à la protection, à la sécurité des citoyens. L'oublier, ce serait grave, et nous on tient absolument, au travers du décès de notre collègue Franck, à souligner l'engagement des policiers quotidiennement à la protection des citoyens français et au travail compliqué qu'est celui de policiers aujourd'hui.
Un hommage à ces policiers a aussi été rendu hier par le ministre de l'Intérieur lors de ses vœux à Toulouse. Christophe Castaner, qui s'adonne à un exercice rhétorique puisqu'il devra cet après-midi recevoir la famille de Cédric Chouvia, livreur décédé il y a 10 jours, lors de son interpellation qu'il souhaitait filmer. L'autopsie a révélé une asphyxie et une fracture du larynx. La famille de Cédric Chouvia et leur avocat parlent de bavure policière. Écoutez Doria Chouvia, veuve de Cédric Chouvia. Elle s'exprimait ce matin chez nos confrères de France Info.
Moi, la violence, je la vois pas chez mon mari, là. La violence, concrètement, je la vois sur les 4 individus qui s'acharnent sur lui. Il y a une circulaire qui dit bien que les policiers n'ont pas de protection spécifique par rapport au droit de l'image. Donc mon mari était dans ses droits et
quand il a filmé,
et s'il a filmé, j'ai envie de vous dire, je pense pas qu'il ait eu un coup de cœur pour eux. Je pense tout simplement qu'il cherchait derrière à contester une injustice dont il avait déjà fait preuve dans un premier temps.
C'était Doria Chouvia, qui sera reçue cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau. Dans ce contexte également, notons que l'IGPN, la police des polices, a ouvert 3 enquêtes après des violences jeudi dernier lors de manifestations. Les syndicats de l'enseigne Auchan sont convoqués ce mardi. La direction devrait annoncer un probable plan de départ volontaire. 1 millier d'emplois sont menacés. L'hypermarché va mal dans son ensemble, preuve en est encore la cession de Leader Price par Casino à un concurrent allemand, Aldi. Cela s'inscrit dans un changement de mode de consommation en France. Le client ne va plus forcément en périphérie des villes pour acheter en gros, mais il préfère des petits points de vente et surtout Internet. Cela a un coût social, qu'analyse pour nous Yves Puget, le directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la distribution.
Le tout sous le même toit qu'était un des préceptes de l'hypermarché lancé en 1963 par Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, s'est révolu, le tout sous le même toit. Il faut se souvenir, il y a 10 ans, c'est pas si loin que ça, 10 ans, il y a 10 ans, ils voulaient vendre des voitures, des appartements, du gaz, de l'électricité, etc. Tout ça, c'est terminé. L'hypermarché était très bien placé dans les produits, ce qu'on appelle les produits blancs, en gros les machines à laver et les sèches-linges. Aujourd'hui, beaucoup de magasins retirent ces appareils de leurs rayons. Que faire des salariés qui étaient dans ces rayons qui ne vont plus exister demain en hypermarché? Et la vraie question, elle est là. Est-ce qu'il faut les former pour aller au rayon fruits et légumes, boucherie, charcuterie, est-ce qu'ils le voudront? Ou est-ce qu'il faudra effectivement lancer un plan social ou autre chose et embaucher à côté d'autres personnes? Donc il y a une mutation tout simplement des magasins. Et cette mutation, bien évidemment, va entraîner beaucoup d'interrogations sociales.
C'était Yves Puget, interrogé pour France Culture par Anne-Laure Chouin. Nous l'apprenons ce matin, le maréchal Haftar a quitté Moscou. L'opposant libyen n'a pas signé l'accord de cessez-le-feu, selon la diplomatie russe. Il l'avait pourtant indiqué dimanche soir, faisant espérer la fin des combats en Libye face au gouvernement d'union nationale. Des Iraniens ont encore manifesté hier pour dénoncer l'attitude des autorités dans la gestion de l'accident d'un avion de ligne. Un Boeing ukrainien a été abattu par erreur par un missile iranien mercredi dernier près de Téhéran, en pleine tension avec les États-Unis. Parallèlement à ce conflit qui se régionalise, Israël est toujours visé et toujours menacé par l'Iran. Franck Madvon a pu rencontrer à ce propos le porte-parole de l'armée israélienne qui est cette semaine à Paris et qui fait passer quelques messages.
Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus ne s'en cache pas, la mort de Qassem Soleimani est un soulagement pour Israël.
Israël voit l'empreinte de l'Iran dans presque toutes les organisations terroristes qui menacent les citoyens israéliens depuis 20 ans. Et dans de nombreux cas, l'empreinte était celle de Qassem Soleimani. Donc oui, c'est pour nous une bonne chose que ce terroriste ait été tué. Mais c'est d'abord un problème entre les États-Unis et l'Iran.
Le porte-parole de l'armée israélienne rappelle que son pays a déjà subi de nombreuses attaques de l'Iran via ses combattants, ses alliés, depuis la Syrie bien sûr. Mais la crainte aujourd'hui, c'est le Hezbollah au Liban.
Le Hezbollah a pu stocker des quantités massives d'armes au Liban. Ils ont un arsenal de 130 000 roquettes. Nous attendons de la France qu'elle exerce plus de pression pour réduire l'influence de l'Iran au Liban dans l'intérêt des Libanais.
Israël s'apprête à tester un nouveau système laser pour intercepter drones et missiles ennemis.
Ce système peut viser des cibles petites, agiles ou plus importantes, plus lentes. Toutes les organisations qui nous menacent disposent aussi de nouvelles technologies et nous devons nous défendre.
Un système complémentaire du dôme de fer qui permet, selon l'armée, d'intercepter 90% des tirs visant Israël.
Franck Madvon pour France Culture. Au Sahel, il y aura bientôt 220 militaires français supplémentaires. Ces soldats doivent arriver dès la semaine prochaine. Ils rejoindront les 4500 hommes déjà sur place qui composent la force Barkhane. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors du sommet avec les chefs d'État du G5 Sahel. On les savait néfastes. Une étude vient un peu plus prouver leur dangerosité. Les écrans ne sont pas bons pour la santé des enfants. Ils seraient même la cause de troubles primaires du langage, d'après une étude qui est publiée ce matin par l'agence sanitaire Santé publique France. Elle met notamment en lumière l'effet délétère des écrans le matin avant d'aller à l'école, Maxime Tellier.
L'étude a été menée sur des enfants de 3 à 6 ans, à l'âge où apparaît et se construit le langage, une période de la vie où les écrans seraient particulièrement nocifs d'après l'auteur de l'article, le docteur Manon Collet, médecin généraliste.
On a vraiment réussi à montrer que le moment exposition aux écrans le matin avant l'école avait un lien statistique fort avec le risque d'apparition de troubles primaires du langage. Au-delà de la durée d'exposition le matin, c'est pas une question de les mettre longtemps ou pas longtemps, c'est vraiment le moment d'exposition. Nous pensons que l'exposition aux écrans dès le matin va épuiser l'attention de l'enfant, qu'il se retrouve alors moins apte aux acquisitions et aux apprentissages pour le reste de sa journée.
Et l'étude montre aussi l'importance de l'accompagnement à l'écran, donc le rôle des parents. Si l'enfant ne discute pas avec son entourage du contenu des écrans, alors les effets sont encore plus néfastes. Il y a ainsi 6 fois plus de risques de développer des troubles du langage en cas de visionnage d'écran le matin et sans en discuter après. L'auteur de l'étude rappelle toutefois que ces effets ne sont pas irréversibles.
On a de la chance et l'avantage de pouvoir jouer sur cette exposition. Il suffit de réglementer et d'accompagner correctement. L'accompagnement aux écrans est vraiment important. Il peut y avoir des conséquences assez facilement réversibles. Donc c'est pour nous un enjeu de santé publique.
Et certaines associations ou médecins n'hésitent pas à parler de scandale sanitaire à propos de la surexposition aux écrans. Mais pour l'instant, il n'existe pas de loi ou de réglementation contraignante. Le sujet sera au menu des premières assises de l'attention. Ce sera le 1er février à Paris.
Les effets délétères des écrans sur les jeunes enfants, c'est aussi un article à lire sur franceculture.fr. De préférence pour les adultes et pas trop tôt le matin, vous l'avez compris. Cet écran-là est recommandé et vous propose souvent de jolies surprises. Je vous parle de l'écran de cinéma. À 4 mois du Festival de Cannes, nous connaissons ce matin le nom du prochain président du jury. Il s'agit du réalisateur américain Spike Lee. Je n'en suis pas revenu, j'étais à la fois heureux, surpris et fier, a dit ce matin le cinéaste phare de la cause noire, une première à Cannes. La météo à présent pour ce mardi qui débute. Un large quart nord-ouest sera sous la pluie aujourd'hui, des Pays de la Loire jusqu'à la Lorraine en passant par l'Île-de-France. Le vent va même s'ajouter aux averses, surtout en ce moment sur les côtes du Finistère et du Morbihan. Ailleurs, le temps restera ensoleillé. Il fait ce matin 5 degrés à Besançon, 6 à Bordeaux, 8 degrés à Lyon, 10 à Lille et à Paris, 11 degrés à Marseille. Il est 8h15, vous écoutez France Culture et vous l'avez peut-être entendu avant ce journal. L'antenne est très musicale ce matin en raison d'un appel à la grève lancé par une organisation syndicale de Radio France. Il s'agit toujours de protester contre le plan d'économie de 60 millions d'euros de la direction, la suppression de 299 postes également. Nous retrouvons donc le prochain journal de la rédaction à 9h tout à l'heure.